Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Cette fille est née pour être un patron, un boss, un chef de bande. Faut dire qu'avec sa mère, grand reporter de guerre, eh bien elle a hérité d'un ADN singulier. Peur de rien, opiniâtre, curieuse, inventive. Telle est Alexia Laroche-Joubert, qui en plus a le culot d'être jolie. Productrice d'émissions phares à la télé, et oui, elle a lancé Love Story, Star Academy, a été présidente d'Endemol France, et elle produit depuis 2016 Koh-Lanta, dont la grande finale a lieu vendredi prochain sur TF1.
Europe 1.
Bonjour Alexia Laroche-Joubert.
Bonjour, j'adore ce petit papier sur moi, j'adore démarrer comme ça, ça va égayer ma journée.
Alors, Alexia Laroche-Joubert, le concept du confinement télévisuel, en fait c'est vous qui l'avez initié en France il y a 19 ans sur M6 avec Love Story. Love Story qui pendant 10 semaines confinait donc sans aucune connexion extérieure des jeunes sous l'œil voyeur des caméras. Vous aviez conscience, Alexia, en adaptant ce concept néerlandais baptisé Big Brother, vous aviez conscience qu'il allait pulvériser les codes du divertissement en jouant sur des ressorts psychanalytiques, puisque l'enfermement, ça transforme les gens. En fait, vous deviniez qu'il annonçait, d'une certaine manière, un monde où l'on serait à la fois épié, tracé, contrôlé, comme le monde qui nous attend.
Alors, c'était compliqué de penser qu'il y aurait un tel succès à la fois télévisuel et sociétal, parce que ça a été une véritable révolution. Je pense qu'on a fait des pics d'audience aux alentours de 14-15 millions, qui sont l'équivalent, enfin un petit peu moins qu'une finale de foot d'un mondial. Est-ce que je savais que c'était précurseur? Je ne sais pas. Ce dont j'étais sûre, c'est que je savais qu'on était dans l'époque, et une époque qui était jeune. C'est-à-dire, je savais que ça appartenait au nouveau mode de communication des jeunes. Et je me suis pas trompée, parce que, en fin de compte, c'était dans les prémices des webcams. Et évidemment, à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Et j'étais persuadée que les jeunes avaient envie de partager leur quotidien et d'y donner une valeur. Donc ça, c'était ma certitude. Après, sur le confinement, évidemment, c'était impossible d'envisager un confinement tel que nous vivons, celui dans lequel on est. En revanche, ce qui était intéressant dans le confinement, c'était d'empêcher les interférences de l'extérieur et de voir des connexions entre des gens qui sont d'une certaine façon obligés de connecter les uns avec les autres et de voir un état de vie collectif obligatoire. Alors la grosse différence avec quand même le confinement que l'on vit aujourd'hui, d'une part c'est un confinement qui était voulu,
voilà.
C'est-à-dire
et
que les jeunes se portaient volontaires, voilà, pour y aller. Deux, il n'y avait pas l'angoisse. Il n'y avait pas l'angoisse, évidemment, du virus, de l'extérieur, de cette notion de guerre dont nous parle Macron.
Mais il y avait
c'était
le regard...
dans le divertissement.
Il y avait le regard inquisiteur des caméras.
Oui, mais le regard inquisiteur, déjà, il faut se rappeler que le mode de captation était très nouveau à l'époque, puisque c'était derrière des vitres sans teint, donc il ne sentait pas la présence des caméras. Il n'avait pas de contact avec les cadreurs. Et ils vivaient leur vie dans une forme une certaine désinvolture, en fin de compte. Et il y a un élément qui, à mon avis, parce que pour avoir été confiné encore un peu plus longtemps parce que j'ai eu le Covid, c'est que... bizarrement, il y a une forme de bulle. C'est-à-dire, vous êtes dans un environnement qui au début n'est pas familier, mais pour les lofters le sont devenus très vite, qui est assez joyeux. On vous donne à manger, vous parlez avec des gens somme toute sympathiques, et donc c'était assez agréable. Et quelquefois, il faut reconnaître, et je sais que je ne suis pas la seule à le dire, le confinement que nous avons vécu, qui nous a sorti d'une forme de pression sociale dans laquelle nous vivons, me rappelle un peu ce que probablement ils devaient eux ressentir dans leur propre confinement.
Alors, Alexia Laroche-Joubert, effectivement, à l'époque de Love Story, les réseaux sociaux n'existaient pas. Or, pendant ce confinement planétaire, ils n'ont jamais autant fonctionné. Vous êtes restée hyper connectée pendant ces 2 mois, ou bien vous avez lâché prise pour une sorte de voyage intérieur?
Alors moi c'est très particulier, je suis pas beaucoup sur les réseaux déjà. Ça fait très longtemps que je suis sur Twitter. Twitter, ce que j'aime, c'est que c'est un relais d'opinion et c'est pas là où on va raconter sa vie privée. Donc je ne suis pas vraiment sur Facebook, sur Instagram, enfin tout ça, j'ai jamais posté une photo de mes enfants. Je suis pas du tout sur les réseaux. Ce qui m'amuse dans les réseaux quelques fois, mais je les regarde. Je pense que sincèrement, je vais les regarder une fois tous les 15 jours. C'est que c'est une forme de carnet de balles de mes copines qui et je vois ce qu'elles font. Mais ça me c'est pas enfin tout ce qui concerne la vie privée ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le relais d'opinion, ces opinions politiques, c'est tout ça. Donc est-ce que j'étais très connectée? Eh ben probablement encore moins que d'habitude.
Surtout qu'il vous est arrivé un petit incident. Il paraît que par mégarde, à un moment, vous allez nous dire à quelle période pendant ces deux mois, vous avez fait tomber de plusieurs étages votre tablette dans la rue.
Oui, alors moi, en revanche, je lis beaucoup d'habitude et j'ai eu la bonne idée de mettre mes draps, pour les aérer à la fenêtre comme les Italiennes. Et hop, il y avait ma tablette qui est tombée de 5 étages. Donc j'ai perdu ma tablette. Donc voilà.
Donc il vous est resté votre bibliothèque, c'est ça?
Donc il m'est resté ma bibliothèque, il m'est resté quand même l'air de rien les plateformes, la télévision, parce que je suis quand même une grosse consommatrice de télévision et tout ça. Mais c'est vrai que les réseaux, c'est pas un univers qui c'est même limite une, je devrais pas le dire, hein, mais je poste sur mes émissions de télévision, je regarde tout ce qui concerne les émissions de télévision et je regarde souvent les tout ce qui est politique et news. Mais sinon le reste pas vraiment.
Alors, en tout cas, pendant ces deux mois de confinement, Koh-Lanta, dont vous êtes la productrice, a parfaitement rempli sa mission, nous permettant de nous évader et de jouer les Robinson Crusoe par procuration. Hein. C'était inespéré, en fait.
Ah bah, je crois que ça a été vraiment le feuilleton du confinement. On a atteint des scores qu'on n'avait pas atteint depuis 4-5 ans, avec des pointes en replay jusqu'à 8 millions de téléspectateurs, donc c'est monstrueux. Et je pense que ça cochait beaucoup de cases. Ça cochait évidemment la case de l'évasion. Quand vous êtes confiné et que d'un seul coup vous voyez une mer turquoise, du sable blanc, des palmiers, ça vous fait évader, ce qui est l'une des raisons d'être aussi de Koh-Lanta. Deux, il y avait une notion de surpassement de soi et de vie en collectivité, ce qui d'une certaine façon nous était interdit. Donc ça, c'était sympathique. Et puis, j'avoue qu'il y avait aussi un élément qui tient à cette saison-là, c'est-à-dire la rencontre des héros connus du grand public et d'anonymes. C'était une première mondiale, puisque aucun autre pays qui produit ce programme-là ne l'avait fait. Et enfin, c'est l'un des rares programmes où il y a une véritable écoute conjointe. C'est-à-dire qu'on aime regarder ça avec son enfant, on peut le regarder avec son enfant, il y a même des choses dont on peut parler avec son enfant. Et donc, quand il y a comme ça la famille qui a été réunie à travers ce confinement, je pense qu'il y avait besoin d'avoir des moments de famille ensemble et Koh-Lanta y contribuait.
Alors sinon, la télé, j'imagine que pendant ce confinement, vous l'avez beaucoup regardée. Les autres programmes, en fait, la télé, vous l'avez trouvée pauvre ou inventive?
Moi, je l'ai trouvée, alors, ni pauvre ni inventive, vraiment, mais adaptable, avec un grand sens de l'adaptabilité. C'est-à-dire que j'admire beaucoup mes copains qui ont mis en place tout de suite un mode de captation extrêmement simple. Je pense à Cyril Lignac et Cyril Hanouna.
Voilà, avec l'écran divisé en 8 voilà. Ou en 12,
alors, ça,
et chacun chez soi.
C'était chez eux, voilà. Ça, je trouvais ça très sympa. Après, Camille Combal a poussé un peu le truc en faisant ça dans un studio. Voilà, je trouvais qu'il y avait énormément d'idées, très marrantes et très sympathiques. Et au final, qui correspondait, enfin, la télé, c'est toujours le reflet de ce qu'on vit. Et là, évidemment, c'était le reflet de ce qu'on vit. Est-ce que c'était plus inventif? Non, c'était rigolo dans sa manière d'être capté.
D'accord, mais fallait pas que ça dure plus de 2 mois. Bon, alors, on va revenir à Koh-Lanta, Alexia Laroche-Joubert. La grande finale, elle a donc lieu vendredi prochain sur TF1. Qu'est-ce que vous nous promettez? Et qu'est-ce que vous avez prévu pour upgrader encore plus, justement, cette finale?
Alors c'est une finale qui va être un peu particulière parce qu'on est encore dans les gestes barrières et on est en post-Covid. Donc on n'aura pas de public, mais on a travaillé sur une version très divertissante avec de véritables enjeux. Il y a toujours l'enjeu évidemment final de savoir qui sera le ou la gagnante. Et là je pense qu'on va prendre un peu plus de temps pour s'installer en communion avec les aventuriers. Il faut savoir que cette saison ayant été énormément de regardée, il y a beaucoup de personnalités au sein de nos aventuriers qui ont déclenché une véritable à la fois attraction et pour certains malheureusement rejet, mais en tout cas ça a déclenché un phénomène d'adhésion autour d'eux et je pense que les gens seront très contents de les entendre parler, de les entendre s'exprimer sur leur aventure et la manière dont ils l'ont vécu et revenir sur des moments forts de leur aventure. Donc on va s'installer un peu plus longtemps que d'habitude. D'habitude l'émission est assez courte et vraiment très axée sur les finalistes et là on va donner la parole à tout le monde.
Eh bien écoutez, moi j'ai 1000 questions à vous poser, alors personne ne bouge, on retrouve Alexia Laroche-Joubert dans un court instant.
Europe 1. Il est 15h12 et vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, un coup de projecteur sur le parcours d'une personnalité. On retrouve Isabelle Morizet et son invité.
Je reçois Alexia Laroche-Joubert, personnage puissant, singulier et haut en couleur dans l'univers de la télé, productrice puisque elle l'est pour Koh-Lanta depuis 2016 et la grande finale d'ailleurs a lieu vendredi prochain sur TF1 en prime time bien sûr. Alexia Laroche-Joubert, pas pas facile de réussir à forcer l'admiration d'une mère quand celle-ci est grand reporter de guerre. Quand y êtes-vous parvenu la première fois ?
Alors, on va être très clair. À un moment, j'ai commencé à me dire, tiens, j'allais être journaliste. Et là, je me suis dit, je peux pas aller sur le terrain de maman. Les terrains de guerre, je vais lui laisser. Je vais prendre les terrains du divertissement. Et donc, je pense que elle a... Enfin, il faudrait lui demander, évidemment. Mais je pense que je l'ai bluffé quand j'ai été précurseur, en l'occurrence, avec tout ce mouvement, en effet, qui a été la télé-réalité. Même si ça a été très décrié, même si elle-même a été attaquée, parce qu'on ne comprenait pas que la fille d'un grand reporter qui raconte le monde dans sa cruauté, d'une certaine façon, on se retrouve à faire des choses aussi légères et pour certains, entre guillemets, avilissants et débilisants. Mais néanmoins, je pense qu'elle a reconnu chez moi l'énorme curiosité qu'elle a et l'envie d'en savoir plus sur les gens. Voilà, donc ça, on partage ce point. Et puis, l'air de rien, c'est des gros barnums. Et ça, je pense que maman, qui a l'habitude d'être extrêmement légère quand elle part en reportage, puisque c'est un cadreur, un ingé son, elle et un monteur.
Le fait que sa fille gère des gros barnums, ça l'impressionnait beaucoup.
Je crois que ça l'amusait beaucoup, ça.
Bon, quand vous aviez 12 ans, quand vous aperceviez votre mère au journal télévisé, un micro à la main, sur des lieux de conflit, parfois de chaos, vous aviez conscience de ce qu'elle risquait ou bien on vous laissait dans le flou pour vous préserver ?
Alors, maman n'est pas quelqu'un qui préserve les gens qui l'entourent. Elle dit les choses et elle les assume. Néanmoins, j'avais une certitude, mais ça c'est parce que je la connais bien, c'est que je lui ai toujours dit, ma pauvre maman, tu vas, avec une telle carrière, tu vas mourir comme une vieille pomme fripée dans ton lit. Et j'étais persuadée qu'il ne lui arriverait jamais rien. Parce que maman, elle a un sens du danger, elle est très instinctive, elle est très animale.
Vous n'aviez donc, pas peur pour elle ?
Non, jamais. Je dis, la seule fois où j'ai eu peur, c'est assez drôle, c'est qu'en France 2, on est pendant la guerre civile en Algérie, et France 2 m'appelle, enfin à l'époque Antenne 2, et me dit surtout ne vous inquiétez pas. Alors là, je me dis, pour qu'il m'appelle, c'est que je dois m'inquiéter. Et donc, c'est la seule fois. Sinon, non, jamais. Et déjà, parce qu'à chaque fois qu'elle nous appelait, alors ça pour le coup, alors je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'était pas inquiète, mais en tout cas, il n'y avait pas de vecteur d'inquiétude dans sa voix.
Ouais.
Et puis, parce que j'ai une totale confiance en elle, mais totale. Je sais qu'elle n'ira pas si elle sent instinctivement qu'il ne faut pas y aller, elle n'est pas tête brûlée. Et ça, je pense que c'est la grande force des femmes grands reporters par rapport aux hommes grands reporters. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, qui sont morts, d'hommes grands reporters qui sont morts sur des zones de combat. Ils ont un côté tête brûlée. Les femmes,
que
quand même,
les
elles sont plus instinctives.
Mais vous a-t-elle expliqué, votre mère, les raisons qui l'ont amené à choisir ce métier de tous les dangers ? Parce que ce métier, il l'a amené à Bagdad, à Sarajevo, en Afghanistan.
Alors il y a plein de choses et je pense qu'elle l'a raconté elle-même dans le livre qu'elle a écrit. Il y a évidemment le besoin de raconter le monde, le besoin aussi de s'évader du quotidien parce que c'est pas juste philanthropique ce métier-là. C'est aussi un métier qui a une recherche constante de l'adrénaline, probablement un désintérêt de la vie quotidienne de celle que nous menons à chacun.
Un désintérêt de la vie quotidienne, dites-vous.
Oui. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Et un besoin d'excitation en zone on the edge, c'est-à-dire que sur le fil du rasoir. Donc ça, c'était très important. Et il y a aussi quelque chose, c'est que vous vivez à un moment absolu où il y a la véracité des gens. Il y a pas de faux semblants. Voilà, on n'est pas dans un jeu social comme on peut l'être à Paris habituellement. Là, on est dans la véracité de la peur, de l'acte héroïque, du sacrifice ou de la violence.
Et ces missions, donc ces absences, pouvaient durer longtemps ?
Oui, alors surtout, il faut se remettre à l'époque, moi enfant et avec mon frère.
Il n'y avait pas de portable.
On n'avait pas les moyens. Voilà, on n'avait pas les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui. À l'époque, c'était ce qu'on appelle un téléphone satellite. Ça coûtait extrêmement cher, donc on l'utilisait avec parcimonie. Et donc, on n'avait pas de nouvelles pendant des longues périodes. Mais quand on a vécu toujours comme ça, c'est une source classique. La seule chose que ça a changé chez moi, c'est marrant parce que j'en parlais avec mon compagnon, c'est que l'absence, pour moi, n'est pas vécue comme la plupart des gens. C'est-à-dire que vous partez, bon... C'est très bien. Et vous allez revenir un jour. Mais je n'ai pas le truc qui me... L'angoisse ou l'envie de voir ou le... Et donc c'est assez déconcertant pour l'homme qui partage votre vie.
Oui, parce qu'en fait, vous avez été vacciné par votre mère d'une espèce de mélancolie comme ça, de l'absence.
C'est ça. Voilà, j'ai pas un complexe d'abandon, on va dire.
Mais alors dites-nous, qui tenait le rôle de mère à la maison quand la vôtre était sur des zones de guerre ?
Alors, maman, elle a déjà quelque chose d'incroyable, c'est qu'elle a eu, elle a choisi, je ne sais pas si elle a choisi des bons hommes pour elle, mais elle a choisi des pères excellents pour ses enfants. Donc, en l'occurrence, mon père et mon beau-père, qui a été donc le papa de mon frère, les deux se mobilisaient immédiatement quand maman partait. Et toujours avec énormément de tendresse pour maman, ils ont une complicité les trois ensemble, qui est assez incroyable, une sorte de Jules et Jim assez drôle.
Ouais.
Et il y avait par ailleurs une sorte de Mary Poppins. C'est-à-dire que maman, ma tante, ma vieille tante était oui. une vieille fille à l'ancienne, donc elle n'avait jamais vu le loup. Elle s'occupait de son père.
Elle n'avait pas eu d'enfant et vous étiez donc les
siens. Pas d'enfant. Et voilà. Et donc elle arrivait avec une petite valise, mais comme Mary Poppins. Hein. Et alors elle avait un truc génial, c'est que maman n'a jamais cuisiné quoi que ce soit. Et elle était une cuisinière hors pair. Donc quand maman partait, ça il faut pas le dire à maman, on était assez contents avec ouais. mon frère parce que enfin on pouvait manger.
Bon, vous évoquez votre beau-père, Alexia Laroche-Joubert, Michel Toulouse donc, qui a été un producteur emblématique de Canal, il a produit Les Nuls, il a fondé plusieurs chaînes de télé, dont Planète, Canal Jimmy, Ciné Cinéma. Bon, vous n'avez jamais eu peur pour votre mère, mais lui, voir sa compagne, la mère de son fils, partir en Irak, en Syrie, en Afghanistan, ça ne le troublait pas plus que ça ?
Alors, il faut savoir que Michel, avant cette grande carrière de patron de chaîne et de producteur, a été directeur de la rédaction d'Antenne 2. Donc, il était déjà sur l'info. Donc, c'est quelqu'un qui, à mon avis même, était assez fier du parcours de maman. Donc, ça, je ne pense pas. Celui qui a plus eu le peur, c'est mon père, qui, lui, était publicitaire, donc gérait quand même des choses relativement futiles. Il va me tuer. Hein, des gros budgets, des énormes budgets. Donc, lui, pour le coup, un jour, je me rappelle, elle l'a appelé. Elle lui dit, voilà, je vais couler. Le bateau est en train de couler, je vais probablement mourir. Donc, occupe-toi des enfants, ne leur dis rien avant que je meure. Et papa a vécu comme
Mon
ça.
Dieu.
Il me dit 24 heures avec l'idée que maman allait mourir.
Bon, Alexia Laroche-Joubert, avec une mère qui a un tel cran, une telle maîtrise, et donc une mère que très peu de choses impressionnent, j'imagine qu'on ne se plaint jamais, on ne se plaint de rien, ce serait indécent. Est-ce qu'à l'âge adulte, vous avez eu la tentation de la suivre sur ses missions, par exemple comme caméraman, pour mieux comprendre ce qu'elle vivait sur le terrain, et puis pour mieux la comprendre, non ?
Alors c'est très marrant, je pense que ça aurait été, parce qu'on en a déjà parlé avec maman, et je pense que là, pour le coup, elle deviendrait en danger. Pourquoi ? Parce que c'est différent de s'occuper de soi-même que d'un seul coup d'avoir charge, et pas, alors elle a la charge de son équipe évidemment, mais elle a la charge de son enfant. Et j'ai peur qu'elle ferait les mauvais choix parce que justement je serais avec elle. Parce qu'elle aurait peur pour moi, pas pour elle. Donc ça aurait été une très très mauvaise idée.
On retrouve tout de suite Alexia Laroche-Joubert.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1. Et cet après-midi, l'invitée d'Isabelle Morizet est la fille d'une journaliste reporter de guerre. Mais c'est sur le terrain du divertissement qu'elle a préféré s'aventurer.
C'est en compagnie d'Alexia Laroche-Joubert, productrice de Koh-Lanta, dont la grande finale a lieu vendredi prochain sur TF1, qu'on chemine cet après-midi. Et c'est passionnant. Chère Alexia, j'ai appris, vous allez nous dire si c'est vrai, j'ai appris qu'au tout début de votre carrière, vous avez travaillé pour Envoyé Spécial sur une enquête autour de la CIA, qui devait faire l'objet d'un grand reportage diffusé dans Envoyé Spécial, bien sûr. Or, vous avez reçu des menaces suffisamment sérieuse pour stopper vos débuts dans le journalisme d'investigation. En fait, vous n'étiez pas du tout branché au départ sur le divertissement. Vous vouliez informer comme enquêtrice de terrain, c'est ça ?
Oui, alors il y a peur. Je sais pas comment vous voulez choper cette info parce que j'en ai jamais parlé.
Eh ben voilà, je suis Sherlock Holmes en jupon.
Ça, j'avoue, non, c'est assez rare parce que vous imaginez qu'avec une mère comme ça, je suis assez discrète sur cet événement-là. Non, c'est un peu particulier en effet. J'avais travaillé avec maintenant un des rédacteurs en chef du Point sur une enquête sur un énorme scandale qui avait lieu au Canada sur les lavages de cerveau qui avaient été organisés par la CIA en complicité avec un médecin canadien sur des gens qui rentraient à l'hôpital soit pour des traumatismes bénins, soit pour des dépressions postpartum et qui se retrouvaient avec des doses de LSD et complètement ayant perdu complètement l'usage de leur mémoire, de la parole pour certains, etc. etc. Et j'avais commencé à enquêter sur un mini fait divers, j'étais tombée là-dessus. Il s'avère que le médecin était bizarrement mort, brûlé dans sa voiture, toutes les archives avaient disparu et surtout j'étais allée beaucoup plus loin, c'est qu'il y avait avait une ramification et l'État français était aussi mêlé dans cette histoire et ça se passait à Nice. Il s'avère que on était en pleine guerre froide à l'époque et donc j'ai commencé à enquêter. En effet, la CIA a commencé à dire qu'il était hors de question qu'on sorte ce dossier.
Et mais vous avez continué pourtant.
On a continué, mais je l'ai pas arrêté pour cette raison-là. Je l'ai arrêté parce que, alors c'était quand même un peu litigieux, mais parce qu'à l'époque on m'a proposé un énorme job et mon camarade du point devait continuer l'aventure et lui on lui a proposé, donc il n'était pas au point, le point. Et donc à ce moment-là, envoyé spécial a continué l'enquête et l'a sortie avec les Canadiens. Donc l'enquête est sortie et il y a même eu des condamnations au Canada et ces fameuses victimes ont eu des dommages et intérêts.
Mais l'histoire des menaces, elle est vraie ?
Elle est vraie. Non, mais vraiment, elle est vraie.
Mais quel genre de menace ?
Oh, c'était de l'intimidation. Hein. C'était pas des menaces. On va pas vous envoyer de la CIA en bas de chez vous.
Mais on va dire que c'est au départ de l'intimidation et après ça.
Ouais,
peut
c'est
être
de l'intimidation
plus
et c'est. Alors c'est très américaine. C'est très marrant. Ils sont toujours très aimables. Mais en fin de compte, derrière tout ça, ils vous disent vous n'auriez pas intérêt à le faire. Vous avez sûrement des choses à cacher. En fait, voilà. Mais c'est très poli. C'est assez surprenant.
Très poli, donc très glaçant. Alexia Laroche-Joubert, vous êtes une enfant de la télé, comme d'autres sont des enfants de la balle. Votre premier stage, vous l'avez fait à 17 ans, au sein de la chaîne Planète, que lançait votre beau-père, Michel Toulouse, producteur donc au sein du groupe Canal. Votre travail, c'était de dérocher les images pour faire des bandes-annonces, donc de sélectionner les images les plus fortes, les plus attractives. C'est une formation idéale pour la suite, ça ?
Alors j'ai adoré ce métier. J'ai adoré ce métier parce que j'ai travaillé pour Planète, mais j'ai aussi travaillé pour Ciné-Cinéphile et Ciné-Cinéma.
Oui.
Et donc mon métier consistait à regarder des films et en extraire ce que de façon très subjective, hein, je considérais comme intéressant. Et après c'était à raconter l'exercice de la bande-annonce est un exercice de teaser qui est exceptionnel parce qu'il faut raconter, il faut donner envie tout en racontant un peu sans tout raconter évidemment. Et je pense que ça a été une très bonne école pour après créer l'appétence sur un programme. Et faire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des arches narratives, qui correspondent aussi à des arches de fiction, et constamment réveiller le téléspectateur. Et j'ai adoré ce métier-là, mais adoré.
Ensuite, vous avez participé au lancement de Canal Jimmy. Vous avez alors assuré vraiment tous les petits boulots d'assistante à script. Avant de rejoindre Canal+, vous avez mis un pied dans la production. Alors, je pose la question à celle qui, des années plus tard, a produit Love Story, puis Star Academy, est devenue la directrice des programmes d'Endemol France. Et depuis 2016, produit Koh-Lanta. À quel moment, Alexia, vous êtes-vous dit « c'est moi qui vais devenir le boss » ?
Je pense que, alors, je dis toujours, à aucun moment je me voyais calife à la place du calife. Et pourtant, à chaque fois que j'engage quelqu'un, je dis toujours, mais il faut absolument que vous vouliez mon job, parce que ça veut dire qu'ils vont me challenger. En revanche, j'ai toujours été, jamais le drive n'a été l'argent, ça a toujours été l'envie. Donc j'ai planté des jobs de dingue avec des CDI, gagnant bien ma vie. Moi, j'ai planté par exemple un job, j'étais rédactrice en chef des magazines à TF1,
oui.
CDI, avec tout. À l'époque de TF1, vous gagnez vachement d'argent parce qu'il y avait, je sais pas quoi, plein d'intéressement, de choses comme ça.
Et vous avez lâché tout ça pourquoi ?
Pour un contrat de 3 mois en CDD.
Mais qui vous faisait faire quoi ?
Bah, qui me faisait rencontrer Stéphane Courby, donc je me suis pas trompée, qui est le patron donc de Banijé et qui est toujours, je travaille toujours pour lui, et pour produire Exclusif pour TF1. Et donc je pense que ça a toujours été un drive très important. Comme j'ai quitté Exclusif pour un truc qui s'appelait donc Big Brother, dont personne ne voulait, et mais auquel moi je croyais. Donc ça a toujours été un drive. Et après il y a quelque chose, c'est que j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus simple de défendre mes projets, de les imposer et de les produire dans ma vision. Alors ma vision n'est pas toujours la bonne, hein. J'ai eu des échecs comme des succès.
Mais en tout cas, vous parvenez toujours à l'imposer.
Oui, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on dit de moi que je suis un peu mort-back. C'est-à-dire que je suis un vrai roquet. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai le mollet, vous savez, je suis comme les teckels avec les sangliers. J'attrape la jugulaire et je ne lâche pas.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que votre instinct ne vous trompe jamais.
En tout cas, toutes les fois où je l'ai suivi, ça ne m'a pas trompé, mais j'ai quand même quelquefois pas suivi mon instinct et là, je me suis rétamée.
Bon, on continue cette balade en compagnie d'Alexia Laroche-Joubert. On s'interrompt un bref instant. On se retrouve tout de suite.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La conversation entre Isabelle Morizet et son invité se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1.
La grande finale de Koh-Lanta a lieu vendredi prochain sur TF1. Je reçois sa productrice, Alexia Laroche-Joubert. Chère Alexia, vous 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 souvenez du jour où vous avez découpé dans un journal l'article qui parlait de cette émission de télé révolutionnaire aux Pays-Bas et baptisée Big Brother? Big Brother comme le personnage du roman d'anticipation de George Orwell. Il paraît que vous êtes entré en trombe dans le bureau de votre patron, Stéphane Courbier, et vous lui avez annoncé « Si cette émission débarque en France, c'est moi qui l'a produit ». Et bien, 2 ans plus tard, vous étiez aux commandes de Love Story.
Ouais, l'histoire m'a pris beaucoup de temps parce que j'étais vraiment un producteur outsider. En effet, je découpe ce petit bout de papier. Et c'était même pas à l'époque, c'était même pas un projet. C'était John DeMol qui disait, tiens, j'ai commencé à écrire sur une expérience qui avait été faite au Canada avec des scientifiques dans une biosphère qui recrée une forme d'autarcie et qui avait complètement foiré.
Ah oui, donc il ne s'agissait pas d'adapter une émission existante.
Si. Alors il disait, tiens, je vais en faire une émission. Donc c'était un pur projet. Et donc, je vais voir Stéphane Courbier. À l'époque, je sais qu'il y avait des négociations qui étaient faites entre justement la société de ce monsieur, donc John DeMol, et la nôtre. Et j'ai dit, je veux absolument le produire. Et là, Stéphane, j'étais toute jeune à l'époque, Stéphane a rencontré tous les producteurs de Paris. Mais quand je vous dis tous, c'est tous. Pour surtout pas me le donner. Et donc, au bout d'un mois et demi, il m'a dit, puisqu'il n'y a que toi qui restes, je vais te le donner. Et donc, je me suis retrouvée à la tête de ce programme uniquement parce que tous les autres ont refusé. Mais en revanche, c'est vrai, la première à avoir dit « j'ai envie de le faire
bon. ».
Comme quoi, il ne faut jamais lâcher.
Enfin, on peut dire quand même, Alexia, que le concept, il est né aux Pays-Bas. Les Néerlandais sont beaucoup plus décomplexés que vous par rapport à la télé-réalité. Leur éthique ne s'encombre pas des états d'âme des Français?
Alors, ils sont beaucoup plus trash. Je pense que le terme est très adapté avec les Néerlandais. Nous, d'ailleurs, c'est pas Big Brother qu'on a exactement fait, qui était assez sombre. Nous, on a fait Love Story. Love Story, de par même le titre du programme, c'est beaucoup plus gay. C'était des jeunes, c'était une forme de dating. Mmh. Les couleurs étaient chatoyantes. C'était la version Ikea de tout ça. Donc, c'était beaucoup plus sympathique. Et c'est vrai qu'ils sont, plus trash. Je peux pas dire ça. Par exemple, ils ont fait un truc dans un Big Brother. La femme a accouché en direct.
Non.
Devant les caméras, ouais.
Non.
Bon, ça on le ferait pas en France.
J'imagine. Bon, en tout cas, j'ai quand même appris qu'en France, par exemple, la production de Love Story avait payé des séances de psy aux candidats après le tournage du Loft. Donc c'est bien quand même que l'atterrissage dans la vie vraie, il n'est pas aussi évident, même quand on sort d'une télé-réalité, comme vous dites, plus douce, plus glamour.
Oui, parce que alors c'est pas tant bizarrement là ce qu'ils ont vécu à l'intérieur du programme qui les avait déstabilisés, c'était l'extérieur. C'est-à-dire que vous imaginez, vous êtes confiné pendant 2 mois, vous rentrez, vous n'êtes personne. On vous a pris, le programme n'est pas connu, on vous dit je vais faire Love Story, tout le monde s'en fiche, etc. vous rentrez. Et au bout de 2 mois et demi, Luana fait la remontée des Champs-Elysées comme une équipe de foot. Mmh. Autant vous dire que c'est un peu déstabilisant quand même. Elle est toute seule. Et donc, alors elle a toujours refusé bizarrement d'aller voir un psy. Mais certains autres l'ont demandé. Mais au final, c'était assez peu de séances. Je pense que c'était juste qu'il il y avait une forme de nostalgie à quitter le Loft.
Oui.
Et là, pour le coup, je reprends le confinement que nous vivons aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Comme certains, en fait, ont peur du déconfinement.
De ressortir.
Voilà.
Et ben moi, par exemple, je suis assez contente d'être confinée.
Bon, Alexia Laroche-Joubert, comment vend-on un nouveau programme à une chaîne? Moi, je suis complètement néophyte. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez. Vous ciblez l'image des chaînes, l'âge de leur public, et puis vous faites monter les enchères entre chaînes du même potentiel, ou au contraire, ce sont les directions des chaînes qui font leur marché dans les boîtes de prod?
Bon, alors c'est un peu des deux. Hein. Y a tous les cas de figure sont possibles. En l'occurrence, moi je signe très peu de programmes et je ne signe que des programmes dont je suis convaincue. Ce qui fait que je suis d'ailleurs, il y a certains programmes qui ont été des succès, que j'ai refusé de produire parce que moi j'y croyais pas. Et je pense que si je n'y avais pas cru, ils auraient été mal produits. Donc tant mieux que ça soit d'autres qui les produisent. Donc je décide d'assez peu de programmes et dans ces cas-là, je vais voir les chaînes et je cible les chaînes.
Concrètement, vous dites je vais vendre, mais quand on se retrouve devant la direction d'une chaîne, il faut avoir des arguments de publicitaire, ça se passe comment ?
Oui, il y a des arguments marketing, il y a l'époque, il faut qu'on soit toujours en lien avec l'époque, ça c'est très important, et puis après, moi je dirige une société dont la spécificité est de produire des énormes barnums, je pense qu'on est la société qui produisons les plus grosses émissions, et en plus à l'international, bon alors c'est un peu particulier en ce moment, et on est très fort dans ce qu'on appelle nous le storytelling,
ouais.
C'est-à-dire qu'on sait très bien raconter des histoires, donc je propose des grands programmes de divertissement familiaux,
alors...
parce que moi j'ai ma spécificité, c'est que je travaille toujours pour les jeunes. C'est ce que je connais le mieux.
Alors, on va évoquer Koh-Lanta dans un instant, mais d'abord, je remonte la chronologie. Après Loft, vous avez lancé la Starac. Bon, il y a 20 ans, lorsque la Star Academy a démarré sur TF1, le public n'avait absolument pas cette culture musicale internationale qu'il a désormais. Les candidates ne chantaient pas toutes comme Beyoncé, et les garçons, ils chantaient pas tous comme le rappeur américain Drake, par exemple. Or, aujourd'hui, quand on suit The Voice, on entend des candidats qui semblent tous venir de American Idol. Donc, depuis le début, ce ne sont pas que les participants qui vont changer, c'est aussi globalement le public. On peut vraiment parler d'une mondialisation par le biais de la télé.
C'est vrai que Star Academy, c'était assez neuf et qu'on n'avait pas cette culture aussi poussée anglo-saxonne et de mondialisation de la musique. Et Star Academy, en plus, a eu un effet positif, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'ouvertures d'écoles de chant.
Ouais.
Chanter, qui n'était pas un truc très français, comme les Américains chantent tout le temps. Nous, on n'avait pas ce groove-là. Et avec ces écoles, on a eu de plus en plus de groove, ce qui fait qu'après, il y a eu une génération qui chantait beaucoup plus et mieux, surtout. Parce qu'au début, on avait quand même beaucoup de candidats, et je pense à Jean-Pascal, je l'adore, ça l'a pas empêché de vendre une pelletée de disques. Bon, enfin, on peut pas dire
qu'il
avait...
Mais il était plus là pour faire le buzz.
Oui, c'est ça, voilà.
Voilà. Alors, Koh-Lanta. Maintenant, puisque la grande finale a lieu vendredi, Koh-Lanta, Alexia Laroche-Houbert, j'aimerais bien savoir si c'est à vous qu'appartient le choix final des candidats.
Alors, ça se passe en beaucoup d'étapes. Il faut savoir qu'on reçoit entre 15 000 et 25 000 dossiers par an. Donc, c'est énorme. Qu'il y a une équipe avec laquelle on travaille depuis très longtemps qui a à peu près 6 ou 7 étapes de pré-casting. Et au final, ils en sélectionnent à peu près 200. Moi, je suis la seule présidente de la société qui produit Koh-Lanta à exiger à être présente tout au long des 200 interviews, des 200 derniers candidats. Et on est plusieurs. Il y a le producteur du programme, il y a la directrice de casting, il y a moi et nos partenaires TF1. Et à ce moment-là, je dis toujours qu'un bon casting est fait des gens qui le font. C'est-à-dire que moi, je vais choisir une typologie de personnalité qui ne sera pas la typologie de personnalité que quelqu'un d'autre choisira. Et c'est ce mélange-là qui fait qu'au final, ça se passe bien.
Alors, sur les 18 éditions de Koh-Lanta, 9 ont été remportées par des femmes. Ça signifie que les femmes ont donc autant que les hommes les ressources d'un Robinson Crusoe, c'est-à-dire l'endurance et la force physique, même si le sens de la stratégie est essentiel, mais tout de même.
Alors c'est ça qui est très intéressant, parce que je pense que c'est le programme par excellence qui est le plus équitable, et d'ailleurs on travaille beaucoup même sur les épreuves physiques, à faire attention à ce qu'il n'y ait pas les mêmes charges pour les hommes et pour les femmes, enfin voilà, de manière à ce que tout le monde soit égalité.
Un petit peu moins lourd pour la gente féminine.
Ouais, exactement.
Ok.
Et il s'avère que ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il y a énormément de femmes qui gagnent Koh-Lanta, parce qu'en effet elles sont très endurantes, parce qu'elles sont aussi stratèges que les hommes. Je pense à Cindy par exemple, qui a fait l'édition il y a 2 ans, elle était incroyable. Elle a complètement, on la voyait comme une petite blonde, un peu olé olé, parce qu'elle avait fait cette scène, vous savez, topless, voilà. Et en fin de compte, elle les a tous menés par le bout du nez.
Elle les a dévorés.
Elle les a dévorés. Donc, il y a beaucoup de femmes comme ça qui sont extra... Maud, qui a en l'occurrence plus de 50 ans et qui gagne Koh-Lanta, ce qui est quand même fantastique. Parce qu'aussi, il y a la force de Koh-Lanta, c'est de mêler stratégie, puissance, résistance, mais aussi, il y a beaucoup d'épreuves qui nécessitent de l'intelligence, de la perspicacité, de la rapidité.
Alors, il y a une épreuve qui me fascine, sans doute l'épreuve la plus cruelle de Koh-Lanta, celle qui consiste à tenir le plus longtemps possible sur un poteau, donc planté dans la mer, avec les muscles qui se tétanisent, parce que le candidat termine l'épreuve sur une jambe, sous un soleil de feu. J'ai appris que cette épreuve, dont la durée peut atteindre 5 heures, j'ai appris que cette épreuve...
Il y a même eu un record à 6 heures, mais là on le fait plus maintenant,
oui,
comme ça.
Mais j'ai appris quand même que cette épreuve a été remportée dans 65% des cas, depuis que l'émission existe, par une femme dans 65% des cas. C'est quand même très étonnant, comment vous l'expliquez ?
Alors, il s'avère qu'elles ont un niveau de concentration qui est très fort. Alors, il peut y avoir des éléments physiques. Quelquefois, quelqu'un qui est assez lourd, c'est plus compliqué de porter son poids et de rester en équilibre. Donc, il peut y avoir des éléments physiques. Et puis, elles ont un niveau de concentration et d'acharnement qui est dingue. Pour arriver à ce niveau-là de la compétition, c'est-à-dire c'est le niveau final, il faut avoir une opiniâtreté que moi, c'est une qualité que j'attribue beaucoup aux femmes.
Oui, donc vous étiez faite pour faire Koh-Lanta, mais carrément devant la caméra, pas qu'en tant que productrice, pas seulement.
Alors, moi, je dis toujours, je trouve ça quand même extrêmement difficile. Personne se... Enfin bon,
vous avez l'impression, Alexia Laroche-Houbert, que vous vous débrouilleriez comment si vous participiez à Koh-Lanta? Samantha.
Alors moi, je suis pas très stat. Moi, je suis très très franc du collier et je suis brute de décoffrage et je dis ce que je pense. Donc je serais une très mauvaise stratège. Donc je suis pas sûre que j'irai très loin.
On s'interrompt un bref instant. On retrouve tout de suite Alexia Laroche-Joubert.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite sur Europe 1. Alors elle a lancé Love Story et Star Academy et puis elle produit depuis 2016 Koh-Lanta sur TF1. Je rappelle que la grande finale a été reportée à vendredi. Alexia Laroche-Joubert se raconte cet après-midi sur Europe 1 au micro d'Isabelle Morizet.
Alexia Laroche-Joubert, bon, malgré votre jeune âge, vous êtes une productrice emblématique de la télévision. Vous n'avez jamais, jamais été tentée par la production au cinéma?
Alors moi, j'ai comme pas mal de gens de télévision, en tout cas moi très fortement, j'ai l'impression d'être illégitime. Alors je peste beaucoup en ce moment parce qu'on se voit, on voit qu'il y a beaucoup d'aide pendant le coronavirus avec des fonds de soutien au cinéma et absolument pas aux émissions de flux. Alors là, je vais faire de la provocation, mais certains films ne font que 200 000 entrées là où on fait 7 millions de téléspectateurs. Et pourtant nous, on n'a pas d'assurance et on n'a pas d'aide gouvernementale. Donc ça, je lance mon petit pic.
C'est dit.
Mais néanmoins, je me suis toujours sentie légitime là-dedans. Là, on va commencer à travailler sur la fiction, mais moi j'ai besoin de comprendre les choses et d'apprendre.
Donc ça y est, et puis, vous allez travailler sur la fiction.
En tout cas, on s'autorise maintenant à se dire qu'on peut le faire. Mais il m'a fallu 30 ans de carrière pour me dire que je pouvais l'envisager.
Bon, vous, le big boss, la femme de pouvoir qui pèse dans les conseils d'administration, puisque vous nous avez dit que ce que vous produisez, en fait, ce sont d'énormes barnums, justement. Ben, vous adorez passer devant la caméra. Vous savourez alors quel genre de plaisir? Parce que vous avez été animatrice par le passé.
Ouais, je l'ai été. Après, j'ai décidé de ne plus l'être. Donc, c'est un vrai choix. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on me l'a reproposé il y a 2 ans et ça m'a fait tellement bizarre que j'en ai perdu la voix pendant 1 mois. J'ai même pas pu répondre. C'est très bizarre.
Étonnant. Étonnant.
Bah oui, c'est très bizarre. J'ai même pas pu dire oui, non. Bon, j'avais plus de voix. Donc, vous voulez bien dire qu'à mon avis, mon corps voulait pas.
Mais en tout cas, est-ce que vous avez apprécié chaque fois cette expérience-là? Se retrouver devant la caméra.
Alors, ce que j'ai apprécié, c'est la continuité de mon rôle de productrice. Ce que je trouvais intéressant, c'était d'être au cœur de la turbine. D'interférer directement dans la machine. C'était pas tant moi de me montrer à l'antenne. Si, il y a une chose que j'ai appréciée, c'est que j'ai adoré, parce que le restaurant, c'est quand même hyper pratique. Vous avez toujours une table et vous avez des vêtements gratos. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même très sympa. Mais mis à part ça, j'avais pas ce besoin absolu d'être à l'antenne.
Bon, Alexia Laroche-Joubert, certains prédisent que dans 10 ans, les chaînes de télé auront disparu au bénéfice d'un stockage de programmes que l'on choisira de regarder selon son humeur du moment, et puis alors qu'il nous plaira, comme on le fait déjà avec Canal à la demande, ou Netflix, ou encore le streaming. La télé va donc bientôt mourir et on va devenir nos propres programmateurs?
Alors, ce qui est fantastique, c'est que vous connaissez ce discours pour la radio aussi. Eh ben, regardez, vous êtes toujours là et je suis toujours là. Non, je pense que les modes de consommation évidemment évoluent. Néanmoins, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que regardez, il y a le confinement qui est un événement complètement accidentel et on se retrouve devant son téléviseur. Donc, au gré peut-être d'autres confinements, la télévision gardera toujours sa place dans le salon. Ce qui est sûr, c'est que j'ai une position qui est assez agréable puisque je suis productrice de télévision, donc je suis productrice de contenu. Donc pour nous, qu'on alimente le streaming, le replay ou le linéaire, c'est-à-dire la télévision classique, de toute façon, on fait notre métier de producteur. Donc je pense qu'il est plus simple en ce moment d'être producteur de contenu que d'être diffuseur.
Alors je vous posais la question parce qu'aux États-Unis, la majorité des foyers a coupé le câble et ne fonctionne que par vidéo à la demande. Ça pulvérise en fait la notion d'horaire. Donc on peut imaginer que bientôt en France, la grand-messe du JT à 20h précise sera complètement obsolète, sachant déjà qu'en plus on a toutes les chaînes d'infos. Donc ça pulvérise la notion d'horaire, ça.
Alors ça change beaucoup la notion d'horaire. Bon, alors il y a quand même un moment où ça ne la changera pas, c'est les événements sportifs.
Ouais.
Pour le coup, parce que les événements mondiaux, il faut bien se retrouver sur un créneau horaire commun. Et puis alors, c'est rare les gens qui aiment regarder une partie de foot en replay, hein, avec le nombre de buts à la fin. Donc ça, je pense pas. Il y aura quand même le direct du news. Parce que ça, le news est quand même en direct. Alors, les vrais, c'est vrai que les chaînes infos, mais à un moment, si vous avez un événement.
Mais il n'y aura plus de grand-messe du JT.
Je sais pas, regardez, là, ils ont eu des records d'audience, la GJT.
Non, mais c'était un contexte particulier. La France a été prise en otage chez elle.
Mais il y a des multitudes de contextes particuliers. J'ai du mal, moi, à... Je sais pas comment... Déjà, il y a des habitudes, quand même. Alors, c'est pas pour rien que la télévision vieillit, hein, aussi. Alors, mais... je ne sais pas très bien comment ça va évoluer. Comme je vous le disais, je suis assez contente d'être diffuseur et pas producteur. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est un pied de nez à tous les Cassandres qui annonçaient la fin de la télévision, puisqu'elle n'a jamais réuni autant de gens devant. Après, je pense que globalement, on consomme plus de vidéos,
ouais,
c'est-à-dire de matières visuelles, qu'on ne le consommait auparavant.
Mmh. Voilà. Alexia Laroche-Joubert, Solveig, votre fille aînée qui a 18 ans, je crois, n'est-ce pas?
Elle va avoir 18 ans dans la semaine prochaine.
Ah,
bah, là.
Bah voilà.
Le jour de la finale.
Non, bah, attendez, bah, le jour de la finale. Waouh, c'est royal. Alors, très bon anniversaire à Solveig. Solveig, en fait, il paraît qu'elle s'intéresse de très près à la télévision. Il faut dire qu'avec une mère comme vous, le contraire serait surprenant. Mais vous êtes heureuse de son intérêt pour ce milieu ou vous préféreriez qu'elle explore d'autres paysages?
Alors, il s'avère qu'elle a été très intéressée. Elle est de nature curieuse, hein, c'est cette famille. Donc, elle a eu une chance incroyable, c'est que je l'ai emmenée sur le tournage de Koh-Lanta, où elle a eu un petit stage pendant 15 jours d'observation. Alors, c'est vrai que, comme je vois très peu mes enfants, je les prends souvent sur les tournages avec moi, parce que c'est une manière quand même de les voir. Et comme elle, en l'occurrence, elle n'a pas de papa, je ne peux pas la confier à quelqu'un. Donc, elle est partie avec moi. Et elle a eu beaucoup d'intérêt. Après, bizarrement, je pense que l'influence de maman est beaucoup plus importante que la mienne. Et elle est plutôt maintenant dans une carrière diplomatique et elle voudrait gérer des crises diplomatiques. Donc elle va plutôt faire ses études à l'international pour gérer des crises.
Voilà, donc il y a manifestement un ADN, n'est-ce pas?
Voilà.
Bien, on retrouve tout de suite Alexia Laroche-Joubert.
Europe 1. Il est 15h52, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invitée cet après-midi, la productrice d'émissions télé à succès, Alexia Laroche-Joubert.
Alexia Laroche-Joubert, quand on est une femme de pouvoir, médiatisée, qui gagne extrêmement bien sa vie, on fait peur aux hommes.
C'est pas simple.
C'est pas ça.
Très, très honnête. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des hommes qui avaient énormément de caractère. Mais vous êtes extrêmement libre. Moi, je suis une personnalité très libre. Je me suis faite toute seule, hormis mon éducation, évidemment, mais j'ai jamais eu un centime de mes parents. Enfin, voilà, je me suis faite toute seule. Et c'est vrai que les garçons, je leur dis, je suis là que pour eux. Là où peut-être, enfin voilà, c'est compliqué. Je pense que je fais un peu peur aux hommes. Il s'avère que là, je suis avec un garçon qui n'a pas l'air d'avoir peur. Mais il faut qu'ils aient leur monde à eux. C'est-à-dire que je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui fait partie du même monde que moi.
Ah oui.
Ouais, ça serait compliqué.
Par exemple, les couples d'acteurs, vous trouvez ça étrange?
Alors, non, pas les couples d'acteurs, parce que c'est une émotion qui est très particulière, c'est un planning qui est très particulier. Ça me dérange pas.
Mais on va dire les couples politiques, alors, par exemple.
Ouais. Oui, alors les couples politiques, il y a toujours cette histoire incroyable. Je crois que c'était pendant Clinton et en face c'était Bush, où l'un sortait avec la, enfin les deux étaient les dircoms des deux sortaient ensemble. Vous imaginez la complexité de l'histoire.
J'imagine.
Non, moi j'aime bien aussi être dans l'univers de quelqu'un d'autre.
D'accord.
Et probablement parce que j'ai été bercée dans ce milieu-là, j'ai pas besoin d'en parler souvent. J'ai toujours vécu dans ce milieu-là, donc c'est pas un milieu qui m'étonne plus que d'autres.
Pourquoi dites-vous
que... J'ai plus la curiosité pour d'autres, pardon.
Pourquoi dites-vous que l'endroit où vous vous sentez le mieux au monde, eh bien c'est dans un avion, installé pour de nombreuses heures dans un vol long courrier, à 10 000 mètres d'altitude? Il paraît que vous adorez
parce que
ça.
Parce que j'avais pas encore découvert le confinement. Maintenant...
C'est mieux que l'avion, le confinement, Alexia Laroche-Joubert.
Ouais, c'est mieux que l'avion, ça dure plus longtemps. Donc, non, mais évidemment, je ne parle pas du drame économique et social que nous allons vivre au sortir de là, puisque moi-même, j'ai quand même eu des conséquences sur ma société compliquées. Mais il s'avère que je m'extraire de la pression de la réalité de ma vie. Et quelque chose que j'aime bien et que je ne m'autorise pas parce que je n'en ai ni les moyens personnels parce que donc je m'occupe de mes enfants seuls, ni les moyens financiers et puis surtout parce que je dirige une société et que mes salariés comptent sur moi. Donc le moment où je montais dans l'avion et on fermait les portes et j'étais injoignable, oui, j'avais l'impression que c'était une bulle de tranquillité. Donc le confinement, tout en ayant énormément fait de télétravail, je trouve que ça a été assez agréable.
En 2004, vous déclariez au journal Le Monde, oh, j'adorerais produire Koh-Lanta. Bon, ça, c'est fait. En revanche, Alexia Laroche-Joubert, est-ce que vous rêvez toujours de produire les Jeux Olympiques de Paris 2024?
Ah, mais j'en rêve. J'en rêverais. Je trouve que c'est le plus bel événement à produire. Bon, il s'avère que j'étais en lien avec les équipes de 2024, mais pas du tout pour le produire. Pour voir
pas pour le produire, vous n'allez pas vous mettre sur les rangs si vous en rêvez?
Non, parce que
vous n'êtes pas du genre à vous interdire les choses.
Non, je me l'interdis pas. Mais il y a un moment quand vous embarquez dans quelque chose, j'ai une énorme production, j'ai beaucoup d'enjeux en ce moment. En 2024, c'est à la fois demain et pas demain. Mais non, je me suis pas présentée. J'ai pas proposé mes services.
Et même si vous n'avez pas proposé vos services, j'imagine que vous avez imaginé les mises en scène et les scénarios les plus fous que vous pourriez mettre en place pour 2024.
C'est des moyens démentiels.
Avec le monde entier qui vous regarde.
Ah bah oui, ça serait fantastique. Non mais c'est surtout l'idée de pouvoir parler au plus grand nombre. Ça a toujours. Moi j'ai quitté Canal à l'époque où c'était très branché de travailler à Canal, en disant à Pierre Lescure, je te quitte pour aller à TF1 parce que j'ai besoin de travailler pour le plus grand nombre. Donc j'ai toujours aimé travailler pour le plus grand nombre, pour ce que Canal méprise un peu les monsieur, madame, tout le monde. C'est voilà, moi je me sens bien parmi ces gens-là et j'aime leur proposer des programmes. J'ai pas la prétention de travailler pour une élite.
Alors proposer des programmes. Alexia Laroche-Joubert, le concept qui révolutionnera les programmes de demain, comme par exemple l'a fait Big Brother alias Love Story il y a 20 ans, j'imagine qu'il est déjà dans votre tête.
Oh, je ne sais pas s'il est dans ma tête. Moi, j'écris beaucoup de. Alors, bizarrement, je ne suis pas une grande visionnaire, mais je suis une opportuniste. C'est-à-dire que j'écris beaucoup de concepts qui correspondent à la vie que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que je puisse dans ma vie des choses qui me voilà qui m'intéressent. Et c'est que ça soit sur... enfin, j'ai plein de thématiques comme ça. Donc, c'est plus là-dessus. Après, on est tous à l'affût de ce qui va révolutionner le monde de demain de la télé. Il faut être très clair. La télé-réalité, ça n'arrive, à mon avis, dans une carrière qu'une fois. Mmh. Soyons très honnêtes. Je pense que j'ai eu la chance de saisir cette opportunité-là. Je ne sais pas si j'en aurai d'autres.
Bon, après la grande finale de Koh-Lanta qui a lieu vendredi prochain, de quoi sera fait votre quotidien, là, en 2020, l'été, puis là, entrée l'automne, ce sera quoi?
Alors là, ma plus grosse priorité, donc il y a la finale, mais la finale, on va dire que elle est assez simple à produire, c'est le lancement de Fort Boyard.
D'accord.
Donc ça, c'est mon enjeu, puisqu'on tourne mi-juin, et c'est la plus... Et c'est une
Fort
très
Boyard auquel
émission,
vous allez participer comme candidate.
C'est la première émission. Oui, j'étais candidate. Et d'ailleurs, quand j'ai eu mon poste de présidente, je leur ai dit, vous avez la première présidente qui a été candidate de Fort Boyard. Et pour la petite histoire, je sors avec un garçon qui lui-même a été candidat de la carte au trésor il y a très longtemps. Donc.
Mais vous n'en sortez pas de la télévision, Alexia Laroche-Joubert.
Donc c'est assez drôle.
Mais c'est fou.
Non, malgré moi, parce qu'il n'a rien à voir avec le métier.
Mais vous voyez, votre vie est Big Brother.
Exactement, ça doit être ça.
Bon, eh bien écoutez, il nous reste à souhaiter un magnifique anniversaire à Solveig vendredi prochain, et puis on sera tous bien évidemment installés devant TF1 pour la finale de Koh-Lanta que vous produisez. Merci infiniment Alexia, je vous
embrasse. Merci, ça a été un plaisir d'être avec vous.
Et je vous dis à très vite.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Si vous nous avez pris en cours de route, je rappelle que vous pouvez réécouter cette conversation dans son intégralité en replay et en podcast sur notre site europe1.fr. Isabelle Morizet revient bien sûr le week-end prochain dès 15h sur Europe 1 avec le philosophe André Comte-Sponville et l'écrivain Guillaume Musso.